Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Quel rôle pour les think tanks? L'Institut français des relations internationales fête ses 40 ans cette année. Quatre décennies qui ont profondément modifié les bases mêmes du système international. Mondialisation des échanges, révolution technologique, bouleversement de la hiérarchie des puissances, émergence de la Chine, explosion du Moyen-Orient, mutation des conflits et menaces, inquiétudes climatiques. Deux ouvrages sortent ces jours-ci qui viennent marquer cet anniversaire. L'IFRI fut le premier think tank français à voir le jour. Une histoire du monde, 40 ans de relations internationales, 1979-2019 chez Duno et politique étrangère avec pour titre 2019-2029. Quel monde dans 10 ans? Nos invités, Sabine Janssen, professeure au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheuse au LIRSA et rédactrice en chef de questions internationales et auteure de Les boîtes à idées de Marianne, ouvrage sur la montée en puissance des think tanks que français aux éditions du CERF. Bonjour.
Bonjour.
Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Institut français des relations internationales ainsi que de la World Policy Conference, membre de l'Institut. Bonjour.
Bonjour.
Et Dominique David, conseiller du président de l'IFRI, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère et co-directeur du RAMSES. Bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer qu'il ait fallu attendre en France 1979 pour que voit le jour le premier think tank français, alors que chez les anglo-saxons, l'histoire des think tanks remonte à 1921 pour le Council of Foreign Relations aux États-Unis et 1920 pour Chatham House au Royaume-Uni. 1920-1921, nous sommes au lendemain de la Première Guerre mondiale, Thierry de Montbrial.
Écoutez, Sabine Janssen vous répondra mieux que moi, puisqu'elle a fait une étude historique très approfondie sur ce sujet. Mais disons, en tant que témoin direct, la culture anglo-saxonne est fondamentalement différente de la culture française, la culture régalienne française. En France, implanter et développer une institution sur les questions les plus fondamentales de la souveraineté, et ceci avec une réelle indépendance, était quelque chose d'un peu contre nature. Et comme tout dans la vie, les choses se font à un moment qui peut être plus propice que d'autres. Avant, c'est trop tôt et après, c'est trop tard.
Sabine Janssen.
Oui, il y a des questions en fait de structure. L'État français génère, si je puis dire, l'État en France génère ses experts. Hein. Mmh. Il y a beaucoup donc de grandes écoles, de concours d'accès à la fonction publique, et donc des experts permanent l'État en compte, et notamment au Quai d'Orsay. On n'aime pas beaucoup voir venir s'insérer dans la discussion, effectivement, d'une matière aussi sensible et régalienne, des gens qui sont extérieurs à la machine gouvernementale.
Dominique David.
Oui, par tradition, en France, l'État est l'intellectuel collectif de la société française, où il se prend pour l'intellectuel collectif. Il est l'intellectuel collectif traditionnellement, et il faut beaucoup de temps, il a fallu beaucoup de temps pour qu'il se rende compte que, en dehors du pouvoir d'État et de la machine à souveraineté, il y avait effectivement des intellectuels qui pouvaient penser, qui pouvaient l'aider.
Alors, Thierry de Montbrial, 1979 pour la France, avril 79, création de l'IFRI, portée par l'actualité. On se souvient, la révolution iranienne, la montée de Solidarność en Pologne, l'invasion russe en Afghanistan. Par rapport à précisément ce que vous évoquiez précédemment, l'indépendance vis-à-vis de l'État, l'indépendance des idées, l'indépendance dans la réflexion stratégique, tout cela s'est passé de façon difficile.
Oui, tout est extrêmement difficile, mais d'abord, la création ne s'est pas faite comme ça, brusquement, en avril 1979. C'était un projet qui était déjà mûri dans les années 70. Les circonstances de la vie ont fait que j'ai été le premier directeur du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, qui s'appelle aujourd'hui CAPS, on a rajouté le stratégique à la fin, et en même temps, j'ai été professeur titulaire à l'école polytechnique, donc j'avais une certaine indépendance. Et c'est l'époque, les années 70, où j'ai découvert justement ce monde des think tanks, et particulièrement, et d'abord anglo-saxons, mais pas seulement, parce que les soviétiques, par exemple, avaient des institutions déjà très développées. Depuis, il y a eu les Chinois, on en parlera peut-être après. Et donc, j'ai mûri ce projet pendant les années 70. Alors, j'avais un avantage sur d'autres, paradoxalement. Le premier, c'est que je ne venais pas du tout de ce milieu, disons, historico-diplomatique, puisque je suis moi-même polytechnicien et ingénieur du corps des mines, et plutôt mathématicien au départ. Et donc, j'étais un animal un peu étrange, et d'ailleurs, Michel Jobert avait fait appel à moi à cause de cette étrangeté. Mais en même temps, appartenant au corps des mines, j'appartenais aussi au sein des saints, si vous voulez, des élites françaises, ce qui m'a permis de naviguer à l'intérieur d'un système, il faut bien le dire, hors duquel il n'est pas facile de s'y retrouver en France. Et puis, il y a eu les circonstances et tant d'autres choses. Mais en tout cas, c'est pas une génération spontanée, si vous voulez, Liffry. Vous parlez des circonstances qui ont porté. Je ne sais pas si les circonstances ont porté, mais quand j'ai commencé à mûrir tout ça, c'est-à-dire dans la seconde moitié des années 70, on était plutôt d'ailleurs dans une phase à ce moment-là de détente hein, en Europe, avant les derniers feux de la guerre froide qui justement se sont produits à partir du tournant 1979-80.
Alors, cette réflexion sur les relations internationales, Sabine Janssen, elle, normalement, elle est aussi du ressort de l'université. Il y a précisément en France une certaine pauvreté en la matière, où disons que les choses ont mis du temps avant de monter en puissance au sein même de ces universités françaises.
Oui, je dirais pas une certaine pauvreté. Simplement, il n'y a pas de discipline institutionnalisée relations internationales. C'est éclaté entre plusieurs disciplines, entre l'économie, entre l'histoire, entre le droit. Donc, si vous voulez, la visibilité avec la science politique. Donc, il y a une visibilité qui est moins bonne, peut-être, que pour d'autres disciplines. En revanche, je crois que ça a été un atout pour la création de l'IFRI, parce que justement, on a pu, en quelque sorte, là, amalgamer beaucoup plus facilement des chercheurs, des opérationnels, des universitaires de type, je dirais, plus classique. Et c'est finalement cette absence de relations internationales, de disciplines institutionnalisées, qui a ouvert un espace de liberté pour des relations internationales qui sont un peu un point de fertilisation croisé entre la recherche et l'opérationnel.
Si vous me permettez d'ajouter un point sur ce que vient de dire Sabine Janssen, moi, curieusement, depuis 40 ans, c'est-à-dire depuis le début de l'IFRI, il n'y a toujours pas de discipline relations internationales à l'université. Nous avons été mêlés à cela de nombreuses reprises, il y a eu toutes sortes de discussions, mais en tant que discipline, les relations internationales n'existent toujours pas dans l'université. C'est assez curieux.
Dominique David,
spécialité. Oui. Mais c'est aussi parce qu'il y a traditionnellement dans l'université une certaine distanciation vis-à-vis de la stratégie comme pensée et art de l'action. Ça s'arrange un petit peu, c'est-à-dire que depuis quelques décennies, les universitaires sont plus près des gens qui pensent l'action. Mais traditionnellement, d'ailleurs, c'est une des poésies, une des grandeurs de l'université de réfléchir un peu en dehors de l'action. Or, ce que veut faire un think tank, et ce que voulait faire l'IFRI, et ce qu'il veut toujours faire, c'est intervenir directement auprès de ceux qui sont censés penser l'action. Non pas conseiller directement l'action, non pas agir directement, mais peser auprès de ceux qui sont dans l'action.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Alors, précisément, pour ce qui est des critiques que l'on entend à propos, à l'encontre des think tanks, le fait d'avoir des institutions comme celle-ci, qui est une fonction plus descriptive de la situation des relations internationales à un moment donné, comment l'IFRI s'inscrit-il? Généralement, on reproche un peu aux think tanks de manquer de capacité de proposition. Thierry de Montbrial.
C'est une question importante, mais tout d'abord, je crois que pour prendre un terrain quelconque, la relation internationale en l'occurrence, la première chose, c'est de savoir exactement de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision juste, correct, réaliste. Le réalisme, je suis très attaché à cette notion. Le réalisme n'a rien à voir avec le cynisme, contrairement à une confusion fréquente. Réaliste, ça veut dire comprendre ce qui se passe. Bon. Et ce que nous avons apporté à la France de ce point de vue-là, c'est justement, nous avons formé des équipes de chercheurs successives qui connaissent les terrains, qui analysent le terrain, qui connaissent l'élan, qui se déplacent et qui ont à la fois les méthodes intellectuelles pour analyser les situations mais qui, en même temps, connaissent et cherchent à établir des réseaux, s'insérer dans des réseaux pour être dans le présent. Hein. Et comme on le disait tout à l'heure, la création de l'IFRI s'insère dans un paysage qui existait déjà, qui était celui des grands think tanks internationaux, ce qui d'ailleurs nous a permis de démarrer assez vite, parce que nous avons immédiatement été reconnus et insérés dans ces réseaux. Alors, la première mission, avant de faire des recommandations, c'est de comprendre exactement ce qui se passe. Et nous sommes, de ce point de vue-là, nous avons à éclairer, je ne dirais pas à dicter, mais à éclairer les décideurs. Et pas seulement, d'ailleurs, les décideurs politiques. Parce que il faut bien voir aussi que dans ce tournant des années 70-80, il y avait, et nous avons saisi justement cette occasion, il y avait un intérêt de plus en plus grand pour les grandes entreprises pour les réalités internationales, parce que le capitalisme français était en train de se développer justement dans le monde. Et donc il y avait aussi une demande, mais pas une demande qu'on leur dicte leur stratégie, une demande qu'on les éclaire. Donc je crois que avant de préconiser des grandes stratégies, des grandes politiques, il faut déjà analyser le terrain au sens large. Et ça a été notre première spécialité. Alors, l'autre remarque que je peux faire au sujet de votre question, c'est que au bout du compte, une politique étrangère, ça se ne change pas tous les deux jours. Bon, par exemple, à l'époque de la création de l'IFRI, nous sommes encore très largement dans l'héritage gaullien. Giscard a été élu en 1974, donc en 79, vous voyez, il commence à avoir en fait une grande lutte entre ce qu'on appelle les gaullistes, de droite, de gauche, etc., peu importe, qui sont encore très présents au ministère des Affaires étrangères, notamment, et puis ce qu'on appelle les giscardiens ou les atlantistes, etc., qui commencent à réémerger de la période de Gaulle et de Gaulle-Pompidou, un peu pendant laquelle ils avaient disparu. Donc nous sommes arrivés vraiment dans ce contexte-là, ce qui d'ailleurs renvoie aussi à votre question initiale, parce que nous avons, et moi-même en particulier, été à l'époque taxé par les gaullistes de giscardiens, ce qui était une simplification outrancière, mais peu importe, c'est une autre histoire. Donc on a été pris dans ce monde-là. Alors, on pourrait en parler longuement pour ce qui se passe aujourd'hui, depuis il y a eu une inversion complète du pendule, le néoconservatisme américain qui a déteint énormément sur le Quai d'Orsay, et sur la disparition de ce qu'on appelle parfois le gaullo-mitterrandisme, etc., etc. Mais le point peut-être le plus important à ce stade de notre conversation, c'est de bien voir qu'une politique étrangère, ça ne se change pas tous les 8 jours. Hein. Ce sont des tendances de longue durée. Alors après ça, on peut avoir des divergences sur telle ou telle action en particulier. Prenons dans la période récente l'action vis-à-vis de la question de la Libye. Fallait-il intervenir en Libye et de quelle manière? En Syrie, quid de la Russie et la question du Donbass ou que sais-je? Mais ça, ce sont des questions qui sont déjà subordonnées à des questions plus vastes qui sont celles des grandes politiques et qui, elles, je le répète, changent lentement, à des rythmes extrêmement lents.
Alors, on ne change pas de politique étrangère tous les jours. Juste pour nos auditeurs, quelques chiffres concernant les think tanks que j'ai d'ailleurs trouvé dans l'ouvrage que je signalais en introduction. En 2018, il y avait au total 7800 think tanks répertoriés à travers le monde. Termes de think tanks qui recouvrent des réalités et des pratiques fort différentes. Vous l'évoquiez, Thierry de Montbrial, il y avait au moment de la création de l'IFRI en 1979 déjà des think tanks russes, soviétiques qui existaient. Et alors, l'université de Pennsylvanie qui publie un classement annuel des think tanks en dénombre sur donc les 7800 à l'échelle mondiale, 1972 aux États-Unis, dont un quart à son siège à Washington et 2219 en Europe. Et donc l'université de Pennsylvanie qui place l'IFRI au deuxième rang mondial derrière la Brookings Institution. Sabine Janssen, parmi les autres critiques qui sont formulées à l'encontre des think tanks, il y a celle qui consiste à dire que les think tanks fabriquent l'opinion en fonction d'intérêts privés.
Oui, alors, je voudrais revenir sur la question que vous souleviez tout à l'heure. Je crois que c'est aussi une différence avec les think tanks américains. Et pourquoi est-ce qu'on fait aussi le reproche peut-être à nos think tanks français d'être davantage descriptifs que les autres, c'est que précisément, ils ne se positionnent pas sur les mêmes, disons, terrains et ne jouent pas le même rôle que, par exemple, les think tanks américains, dont on sait qu'ils vont fabriquer, par exemple, des programmes présidentiels un peu clés en main, des programmes de politique étrangère. Donc ça, c'est une différence qu'il faut bien souligner. Mais c'est vrai qu'avant de faire du prescriptif, il faut faire du descriptif et de l'analytique. Alors, sur la question précisément que vous me posiez...
Oui, qui est de la critique qui est généralement avancée à l'encontre des think tanks, fabriquer l'opinion, enfin voilà, les think tanks seraient une fabrique de l'opinion en fonction d'intérêts privés.
Effectivement, il y a même eu un livre qui est sorti à ce propos, hein, cette question de la fabrication, de la manipulation. Bon, d'abord, elle sied évidemment à notre époque qui est particulièrement complotiste, mais elle s'explique aussi parce que justement, on revient peut-être à ce qui est une des fonctions du think tank, c'est-à-dire l'influence. Et comme on le sait, l'influence n'a jamais bonne presse. D'abord, elle est difficile à cerner. Et en plus, je dirais que ceux qui en sont les destinataires, là je pense par exemple aux décideurs politiques, ils ne vont pas forcément clamer sur les toits qu'ils sont sous influence. Hein. Et en conséquence, ils vont peut-être utiliser des notes qui vont leur être données, utiliser des conversations ou des éléments d'information ou des analyses faites par les think tanks, mais ils ne vont sûrement pas clamer partout qu'ils utilisent ces notes. Donc cette question du rapport, si je puis dire, entre le think tank et le pouvoir, explique peut-être aussi ces critiques. Mais je crois qu'elles sont particulièrement réductrices, hein, surtout dans le cas français.
Dominique David.
Oui, écoutez, d'abord, dans les think tanks, Thierry le dirait bien mieux que moi, vous avez un nombre d'animaux extrêmement différents. Et puis, pour répondre à votre question plus précisément, il faut bien distinguer effectivement ce qui existe en France, et en particulier à l'IFRI, de ce qui existe dans d'autres pays. Par exemple, aux États-Unis, la majeure partie de ce qu'on appelle les think tanks qui s'occupent de politique internationale ou de politique en général sont soit affiliés à une sensibilité démocrate, soit à une sensibilité plutôt républicaine, la Heritage Foundation. Marche avec les républicains. La Brookings Institution passe pour être plutôt libérale au sens américain du terme, c'est-à-dire plutôt démocrate. Si vous allez en Allemagne, la Konrad Adenauer Stiftung est une fondation très intelligente et plutôt indépendante, mais liée à la CDU, la Friedrich Ebert plutôt liée au SPD, etc. Ce qui ne leur empêche pas de faire des travaux extrêmement intelligents, et nous travaillons avec toutes ces fondations, mais elles sont quand même politiquement marquées. Vous avez d'autre part des citants qui sont liés à des intérêts économiques, qui sont funded, enfin qui sont
financés,
c'est l'habitude de parler des think tanks américains, par de grandes entreprises qui inévitablement font passer à travers leur financement leur désir de lobbying. Je m'honore d'appartenir à un IFRI dont je serais bien incapable de décrire la couleur politique, à la fois parce qu'on ne donne pas de conseils politiques orientés en excluant les autres, et deuxièmement parce que nous sommes composés d'une équipe de chercheurs très large qui se caractérise par un travail de terrain, etc. On y reviendra certainement tout à l'heure, et qui sont d'opinions différentes et parfois divergentes, ce qui n'empêche pas qu'il y a un esprit commun, parce qu'on cherche tous à raconter des choses qui sont pas trop éloignées de la vérité et de la réalité. Mais la diversité de l'IFRI, qui est la garantie de son indépendance, explique que c'est effectivement un animal un peu étrange dans le milieu des think tanks, qu'on peut décrire dans le monde, et qui est que c'est effectivement un think tank qui ne défend aucune doctrine. Sinon, la doctrine de se rapprocher le plus possible de la réalité.
Thierry de Montréal.
Oui, je voulais compléter ça parce qu'il y a quelque chose de très important, c'est que la notion de think tank, ce n'est pas labellisé. Bon, moi j'ai donné une définition des think tanks, on a travaillé là-dessus, mais enfin c'est pas une définition reconnue, de même que quand on parle d'économie, si vous voulez, vous mettez aussi bien un prix Nobel qu'un sous-chef de service économique dans une banque, enfin, et c'est extrêmement divers. Alors, l'IFRI, en l'occurrence, est radicalement unique en France, dans le sens que nous avons une équipe permanente de chercheurs à plein temps payés par nous, qui ne sont pas des universitaires payés par le CNRS ou que sais-je, ou des gens qui sont à l'université et ont leur propre travail principal ailleurs, puis qui de temps en temps arrivent à la radio en étant labellisés de IFRI ou autre, voilà. Et ça fait une différence absolument capitale.
Place au foot pour nos auditeurs en Afrique et à Paris. Pour les autres, on se retrouve après le journal pour la suite de Géopolitique. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, quel rôle pour les think tanks? Nous retrouvons nos invités, Sabine Janssen, professeure au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheuse au LIRSA et rédactrice en chef de la revue Questions Internationales. Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Institut Français des Relations Internationales, ainsi que de la World Policy Conference et membre de l'Institut. Dominique David, conseiller du président de l'IFRI, rédacteur en chef de la revue Politique Étrangère et co-directeur du RAMSES. Thierry de Montbrial, nous avons terminé la première partie de l'émission. Vous évoquiez le caractère unique de l'IFRI dans le paysage des think tanks en France. J'ai deux questions pour aller plus loin dans le débat. Où se font aujourd'hui les débats les plus importants de politique étrangère en Europe? Et comment se place la France en matière d'expertise internationale? Vous évoquiez dans la première partie l'idée que le néoconservatisme américain avait tendance à déteindre sur le Quai d'Orsay. Thierry de Montbrial.
Alors, d'abord, un petit complément en ce qui concerne l'unicité de l'IFRI. Tout à l'heure, je parlais de l'aspect chercheur à plein temps et qui ont des méthodes et qui travaillent ensemble, en fait, tout ça. Et qui, et ça c'est lié à votre question immédiate, et qui participe d'une manière permanente à travers de multiples conférences, rencontres, en France bien sûr, mais à l'étranger et dans tous les pays du monde, qui participe à cette réflexion générale sur les différents aspects de la politique étrangère. Par exemple, moi-même, je vais aujourd'hui encore au minimum une fois par an à Pékin, plusieurs fois par an en Russie, sans parler des États-Unis, de l'Europe, etc. Et chacun, nous avons cette activité vraiment internationale qui est extrêmement importante et qui ne serait pas possible si justement nous n'avions pas une équipe permanente de chercheurs. Vous voyez, tout cela se tient. Mmh. Il y a un autre point aussi que je crois intéressant de souligner, c'est qu'un autre caractère unique de l'IFRI, c'est que nous avons trouvé, je crois, ça a pris du temps, mais un bon positionnement par rapport à l'État, c'est-à-dire ni trop proche ni trop loin. Parce que, on disait au début de cette émission, on parlait du régalien, la difficulté en France de se positionner par rapport au régalien. Mais si vous n'avez pas des relations avec l'État, vous ne pouvez pas exercer une véritable influence. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons trouvé ce bon positionnement et nous sommes d'ailleurs respectés, on l'a bien vu, à l'occasion de la célébration du 40e anniversaire de l'IFRI. Alors, maintenant, plus précisément sur cette question de l'évolution de la politique étrangère, je vous disais tout à l'heure que c'était des évolutions lentes, hein, des vagues de longue durée, et moi effectivement je suis témoin direct de cette évolution. Quand j'étais comme directeur du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay dans les années 70, nous étions alors dans la vision fondamentalement gaulliste, puisque c'est Jobert, c'était Pompidou le président de la République quand ça a été créé. Alors ensuite, Giscard est arrivé, donc on a commencé à s'insérer d'une manière beaucoup plus qui n'avait pas de précédent, si vous voulez, dans les instances euro-atlantiques et en particulier dans les instances de dialogue, les think tanks, les clubs de toutes sortes. Mais il y a eu ensuite une sorte d'équilibre à l'époque de Mitterrand. On parle d'ailleurs souvent de politique gaullo-mitterrandienne, on associe un peu les deux. Mais très progressivement, on a vu que la dimension atlantiste s'est renforcée par les remplacements générationnels au Quai d'Orsay, au point, et même si ça les irrite qu'on dise ça, mais au point que l'on a pu dire que les positions un peu néo-conservatrices américaines avaient fini par exercer une véritable influence. Alors quand on parle de néo-conservatisme américain, disons, pour simplifier, quitte à caricaturer un peu, ça veut dire que c'est l'idéologie qui prédomine, et l'idéologie qui va jusqu'au renversement des régimes, supposés dictatoriaux ou autres, et avec l'idée que des bonnes élections pourront permettre la génération spontanée de la démocratie.
Vous avez des exemples précis, Thierry de Montbrial, dans ce que vous évoquez là, juste pour que nos auditeurs comprennent.
Je pense, pour prendre un exemple récent, l'intervention en Libye, qui a d'ailleurs débordé de son cadre légal initial, puisqu'elle a abouti à l'élimination du régime de Kadhafi, est une parfaite illustration de cela, puisque c'était une initiative française, avec d'ailleurs les Anglais, ce qui est assez intéressant, mais enfin les Américains avec Obama étaient plutôt en arrière de la main. Ils ont, c'est là qu'on a fabriqué ce magnifique expression de leadership by behind, d'exercer le leadership en se mettant en arrière. Mais l'idée qui était prédominante, c'est que on pourrait aisément, après la chute du dictateur, instaurer une bonne démocratie en Libye. Et puis naturellement, c'est toujours à propos de ces printemps arabes, toute la politique vis-à-vis de la Syrie a été inspiré, je crois, de bout en bout, aussi bien sous Sarkozy que sous Hollande, par cette idée que l'on pourrait instaurer la démocratie, une forme de démocratie, pour succéder au régime de Bachar el-Assad. Alors que, pour quelqu'un comme moi, voyageant par exemple en particulier au Liban ou ailleurs, j'entendais des gens en particulier, mais pas seulement dans les milieux chrétiens, qui disaient surtout attention, 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 si on veut renverser le régime d'Assad, purement et simplement, la situation sera encore pire qu'avant, ce sera le chaos.
Dominique David.
On peut donner aussi, après l'exemple libyen ou syrien, celui du positionnement français durant la négociation nucléaire avec l'Iran, par exemple. Ça, c'est trop long de donner des détails. Juste revenir sur un petit détail. C'est effectivement un positionnement qui est celui du Quai d'Orsay, mais il ne faut pas épingler seulement le Quai d'Orsay. Il y a dans ces glissements une coopération entre le Quai d'Orsay, à travers certaines directions du Quai d'Orsay, et le ministère de la Défense. En particulier les directions qui se sont occupées des choix stratégiques du ministère de la Défense. Il ne s'agit pas de critiquer, naturellement, d'essayer de comprendre quelles sont les relations inter-services qui peuvent orienter les choix diplomatiques dans tel ou tel sens. Mais il y a eu effectivement marginalisation d'un certain nombre d'écoles diplomatiques françaises et montée en puissance d'autres écoles. Il y a peut-être une réflexion qu'on peut se poser, mais là, elle est un peu plus long cours. Il y a une curieuse tendance en général en Europe, mais pas en particulier en France, a sur certains points décalqué les positions américaines avec 15 ans de retard. C'était très visible à la fin du XXe siècle, par exemple, sur la succession des stratégies de l'OTAN, où on réfléchissait sur ce que les vieux appellent la flexible response, 15 ans après les États-Unis, etc. Sur les positions diplomatiques, c'est pas très aimable de le dire, mais ça décalque aussi, mais avec du retard. Donc on se réveillera peut-être sur des positions trumpiennes dans 15 ans.
Si vous me permettez de voler là, un instant la parole à Sabine Janssen. Bon, Dominique David a parfaitement raison de parler de l'émissaire de la Défense, mais il y a eu un épisode tout à fait essentiel qui a été aussi la réintégration de la France dans l'organisation militaire intégrée de l'OTAN, qui est sans véritable contrepartie. Mais au fond, les militaires étaient très contents de cela. Et ils étaient très contents parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient un peu hors-jeu, alors qu'ils sont maintenant dans le jeu. Alors derrière tout ça, on n'a pas le temps d'en discuter, mais derrière tout ça, vous voyez bien que dans le contexte actuel, il y a la question, on vient de célébrer le 70e anniversaire de l'OTAN.
C'était le sujet de l'émission d'hier de géopolitique.
Et la question, c'est que signifie l'OTAN aujourd'hui? On n'a jamais vu une alliance survivre longtemps aux causes qui avaient été à leur origine. Et moi, j'ai une position qui est là-dessus un petit peu révolutionnaire.
Vous êtes très sévère sur la façon dont les Occidentaux ont effectivement géré la fin de l'URSS, Thierry
Montbrial. Je suis très sévère, extrêmement sévère là-dessus. Et je crois que l'OTAN est devenu presque, désigner la Russie comme adversaire principal est presque devenu une nécessité vitale pour le maintien de l'OTAN. Si vous voulez. On est dans une situation absurde, alors que le contexte international total devrait nous obliger à prendre beaucoup plus de hauteur et regarder les poussées impériales qui sont américaines d'un côté, et là l'OTAN leur est très utile,
et chinoises de l'autre.
Et c'est cette vision globale qui aujourd'hui fait défaut.
Sabine Janssen.
Thierry m'a enlevé, si je puis dire, le mot de la bouche, parce que je voulais effectivement rappeler que la politique de Nicolas Sarkozy était clairement tournée, je dirais, vers l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, il ne s'en est pas caché. Et c'est vrai que la réintégration dans le commandement de l'OTAN, c'est une vraie rupture avec ce qu'avait fait De Gaulle en 1966. Donc là, de ce point de vue-là, on a un changement un peu de modèle.
Alors, Thierry Montbrial, le néoconservatisme américain qui déteint sur le ministère français des Affaires étrangères, est-ce que cela fait une spécificité de la France en Europe, ou bien finalement nos voisins, que ce soit les Anglais, les Allemands, fonctionnent un peu sur le même registre?
Alors ça, on le verra au fil du temps, mais moi ce que je discerne aujourd'hui sur l'Europe, c'est que le vernis européen, j'appelle ça le vernis européen hérité des pères fondateurs, s'est fissuré avec l'élargissement extrêmement rapide et trop rapide qui a eu lieu après la chute de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, nous avons un ensemble qui est à la fois extrêmement hétérogène, parce que on sous-estime, par exemple, pour les ex-pays communistes de l'Europe qu'on appelait de l'Est, l'Europe centrale, on sous-estime l'impact durable de plus de 50 ans de communisme ou de régime autoritaire. Et ces traces sont en réalité encore extrêmement présentes. Et naturellement aussi les complexités de la gouvernance d'un ensemble à 28 qui est totalement d'un attelage, qui est extrêmement difficile à gérer. Mais je crois discerner en dessous de ce qui reste de ce vernis craquelé le retour à des réflexes de politique étrangère extrêmement traditionnels. Bon, si vous me permettez, je vous donne un exemple. Bon, la Grande-Bretagne, puisqu'on parle beaucoup du Brexit. Mais la Grande-Bretagne, moi, quand je demande aux Anglais pourquoi êtes-vous aussi acharnés contre la Russie, par exemple, aujourd'hui, pourquoi? Bon, alors évidemment, on peut évoquer le grand jeu du 19e siècle, etc., mais c'est pas du tout le contexte. Mais je crois que la Grande-Bretagne a toujours eu le souci d'empêcher sur le continent des rapprochements trop grands entre la Russie, l'Allemagne et la France, par exemple. Et pourquoi est-ce que la Suède, qui était neutre, est-elle aujourd'hui aussi atlantiste, justement? Eh ben, là aussi, il me semble, mais nous avons une historienne ici, qu'il faut remonter à l'histoire diplomatique pour s'apercevoir que la Suède, sans remonter même à Charles XII, a toujours eu pour souci d'essayer de contrôler le mieux possible le nord de l'Europe, ce qui supposait là aussi de se rapprocher plutôt de la Grande-Bretagne et de diviser les Européens continentaux. Alors moi, j'aimerais que dans une discussion d'un certain niveau sur l'avenir de la politique étrangère, on ait le courage de regarder les choses un petit peu plus en face, c'est-à-dire en dessous, si j'ose dire, en dessous du vernis.
Dominique David et Sabine Janssen. Dominique David.
Oui. En gros, on est en train de parler du retour de la puissance, plus exactement du retour des puissances. On a eu tendance, ou certains ont eu tendance depuis 20 ans, à poser le multilatéralisme sur un piédestal en expliquant que c'était le règne du bien et en l'opposant au rapport de puissance qui aurait été le règne du mal et le règne du passé. En réalité, c'était mésestimer la réalité qui est qu'il n'y a de multilatéralisme qu'organisé sur un certain rapport de puissance. C'est triste, il vaut mieux que ce rapport de puissance soit bien élevé et courtois, mais c'est un rapport de puissance. Et on retrouve aujourd'hui le rapport de puissance, et il va falloir reconstruire, si on veut reconstruire des systèmes multilatéraux qui soient basés sur ce rapport de puissance. Alors le problème de l'Europe, c'est que, pour le moment, l'Union européenne, pas l'Europe, hein, mais l'Union européenne, fonctionne sur une évacuation de la notion de puissance. C'est-à-dire sur une pensée, on n'a pas le temps de détailler, sur une pensée post-nationale, sur une pensée qui fait comme si le droit international et les rapports courtois suffisaient à définir un monde international harmonieux, ce qui n'est pas exactement le cas. Tant que l'Union européenne refusera de penser son existence comme une puissance bien élevée, une puissance polie, une puissance respectant peut-être mieux le droit international que les autres, mais tant qu'elle refusera de se penser comme une puissance, c'est-à-dire ayant des intérêts à défendre contre les autres, la Chine, etc., elle sera extérieure au monde tel qu'il se développe. Et l'un des grands enjeux du débat européen à l'heure actuelle, c'est de savoir si on va arriver à se penser comme ça ou si on va en rester à cette sorte d'idéologie molle qui, de toute façon, ne débouchera pas sur un nouveau multilatéralisme.
Sabine Janssen.
Oui, j'abonde là dans le sens de Dominique. Je pense que il y a une prise de conscience aujourd'hui, malgré tout, on le sent au travers des discours d'Angela Merkel ou d'Emmanuel Macron, une prise de conscience de l'existence d'un système international qui n'est pas le meilleur des mondes, avec à la fois des rapports de puissance économique et militaire. Maintenant, est-ce que les volontés politiques seront suffisantes et surtout, est-ce qu'elles auront aussi le soutien des opinions publiques pour que l'Europe puisse effectivement se transformer en puissance, disons, de type plus classique, ça, c'est tout l'enjeu, effectivement, des années à venir. Et des élections dans un premier temps, mais plus largement des années qui viennent.
Alors, les volontés politiques seront-elles suffisantes, Thierry de Montbrial, la montée en puissance de la Chine, quel impact sur les think tanks, quel défi pour un think tank, par exemple, comme l'IFRI?
Alors, un mot encore sur le, pour faire la transition. Je crois que quand on arrive au pouvoir, que ce soit être président de la République en France ou chancelier en Allemagne, etc., on vit intellectuellement sur son acquis. Bon. Et d'ailleurs, tous les gens qui sont au pouvoir le reconnaissent pour peu qu'ils aient un minimum de modestie. Bon. Ce qui veut dire d'ailleurs que si, en politique étrangère, ce qui est le cas le plus fréquent, on arrive au pouvoir sans avoir une réflexion préalable, on est extrêmement dépendant de son entourage et des idées reçues du moment. Je souligne ce point qui me paraît extrêmement capital. Et aujourd'hui, en Europe, je ne vois aucun leader qui ait à la fois une réflexion préalable aboutie sur ces questions et par ailleurs suffisamment de levier de puissance dans son propre pays pour pouvoir faire bouger les choses. Ce qui veut dire en clair que je crains qu'on reste dans une espèce de situation un peu de bouillie, si vous voulez, dans l'avenir prévisible en ce qui concerne l'Europe. Et que toutes les idées qu'on peut développer aujourd'hui, du genre de celles que nous esquissons par exemple aujourd'hui même, au mieux, elles auront un impact pour les générations suivantes, si vous voulez. C'est un point important. Alors, effectivement, la Chine. Bon, la Chine a clairement une posture impériale, j'emploie le mot impérial dans une acception extrêmement large, de même que j'ai dit tout à l'heure que l'Amérique et les États-Unis ont une posture impériale. L'Amérique poussant vers l'Est et naturellement la Chine vers l'Ouest, sont leur Est et Ouest respectifs. Bon, et on voit bien que de ce point de vue-là, l'Europe est l'un des théâtres des opérations dans cette rivalité. Pourquoi croyez-vous que les États-Unis, au-delà de Trump, ont fait de tels efforts sur la Pologne? Parce que, pour eux, c'est extrêmement important d'avoir des têtes de pont, si vous voulez, dans le système euro-atlantique tel qu'ils le voient, en Pologne. Pourquoi est-ce que Xi Jinping a fait aussi un tel effort en Italie et même à Monaco? Eh bien, c'est la réponse, chacun pourra la trouver tout seul à partir de ce que je suis en train de dire. Pourquoi est-ce qu'en 2011, si je ne me trompe, les Chinois ont acheté le port du Pirée? Et à l'époque, c'est passé comme une lettre à la poste. Nous l'avons souligné dans nos travaux, mais il n'y a pratiquement pas eu de débat. Et pourquoi ont-ils envisagé, je crois d'ailleurs que ça traîne un peu aujourd'hui, de financer un chemin de fer, les Chinois, en 2011, un chemin de fer entre Athènes et Budapest? Allez donc répondre à cette question. Alors, ou bien ça paraît absurde, ou alors ça prend un sens dans cette sorte de grande politique dont la route de la soie, Belt and Road, etc., tout ça, ça sont des éléments d'un même puzzle. Alors, aujourd'hui, on commence à avoir un début de réflexion, en tout cas de prise de conscience en Europe, mais beaucoup plus à travers les aspects purement économiques, si vous voulez. Alors que moi, je crois aussi qu'il y a un aspect politique qui est extrêmement fort. Et pour conclure cette petite diatribe, on rejoint aussi sur les deux empires. Il y a l'empire libéral, mettons l'empire américain qui cherche à développer l'idéologie libérale, et l'empire chinois, d'une manière toute naturelle, se trouve amené à soutenir ce qu'on appelle aujourd'hui les démocraties libérales. Vous voyez et si on regarde les choses comme ça, vous voyez qu'il y a un puzzle dont la configuration générale apparaît, en tout cas à mes yeux, relativement claire.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Sabine Janssen, je rappelle que vous êtes professeure au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers, chercheuse au LIRSA et rédactrice en chef de questions internationales. Thierry de Montbrial, fondateur et président de l'Institut français des relations internationales, ainsi que de la World Policy Conference et membre de l'Institut. Dominique David, conseiller du président de l'IFRI, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère et co-directeur du RAMSES. Et donc, je rappelle ces deux ouvrages à l'occasion du 40e anniversaire de l'IFRI. Une histoire du monde, 40 ans de relations internationales, 1979-2019 chez Duno et Politique étrangère avec pour titre 2019-2029, quel monde dans 10 ans. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Véronique Durand et Jérémy Besset. À samedi prochain.